nous constatons, au point où nous en sommes arrivés, de la relecture, ou de la tentative de relecture de Lautréamont, qu'il y a eu, premièrement, une découverte et une lecture du conte de Lautréamont par les symbolistes, malgré une très brève publication d'extraits de poésie par Romy de Gourmont, qu'il y a eu ensuite une découverte et une lecture de Lautréamont par les surréalistes, mais où l'on voit nettement, au moment où André Breton va copier à la Bibliothèque nationale le seul exemplaire existant de poésie, on voit privilégier, peut-être pas tellement Isidore Ducasse, mais le fonctionnement conjoint des chants et de poésie. Ensuite, nous avons une lecture plus moderne, enfin une lecture, disons, du fonctionnement culturel actuel, de pointe, par le livre de Marcelin Plénet, qui a paru aux éditions du Seuil, Lautréamont par lui-même, dans la très belle collection, des écrivains de toujours. Alors je voudrais demander à Marcelin Plénet, premièrement, de résumer très brièvement, très laconiquement et rapidement, son approche de Lautréamont, sa lecture, si je puis dire, de Lautréamont Ducasse.
Ce livre est paru en 1967, il me semble.
Oui, exactement.
C'est-à-dire que depuis, il a produit quelques autres livres, il a comme ça travaillé tout un circuit d'études sur Lautréamont.
Je tiens à dire, je vous coupe deux secondes pour dire que, puisque nous avons Philippe Solers avec nous, que votre livre, Marcelin Plénet, a provoqué, de la part de Philippe Solers, un texte très important qui a initialement paru dans la revue Critique, et qui a ensuite été repris de Philippe Solers en volume.
Oui, Solers a développé ce que j'avançais dans ce livre, et je pense qu'il y reviendra lui-même dans un moment. Ce que je voudrais dire, c'est que finalement, la façon que j'ai eue d'aborder Lautréamont a été essentiellement concernée par quelque chose qui me semblait, et qui me semble d'ailleurs toujours significatif de la culture qui est la nôtre aujourd'hui, c'est-à-dire finalement de son côté 19e-iste, comme disent les anglo-saxons. Il m'a semblé alors que la bonne façon de se débarrasser de ce 19e siècle, ou en tous les cas de le nettoyer, c'était d'aborder Lautréamont. Vous connaissez toute la longue séquence des grandes têtes molles de notre époque qui se trouve dans les poésies. Et là, eh bien, il m'a semblé que, même à travers la lecture qu'avaient pu en faire les surréalistes, si vous voulez, il m'a semblé que justement ce côté-là n'était pas mis en évidence, n'est-ce pas ? Que Lautréamont était célébré comme un grand auteur maudit, mais que nous arrivions à un moment où il n'était plus question d'auteur maudit, où ce n'était pas ça la question, où la question c'était finalement, si vous voulez, très très simplement, de savoir pourquoi on avait pu dire à une certaine époque que cet auteur était maudit. N'est-ce pas ? Qu'est-ce qu'il l'avait produit ? Qu'est-ce qu'il l'avait maudit ? Au fond, qu'est-ce qu'il l'avait maudit ? C'était son époque.
Il paraît beau. Sublime, sous prétexte d'humilité ou d'orgueil, de discuter les causes finales, d'en fausser les conséquences stables et connues. Détrompez-vous, parce qu'il n'y a rien de plus bête. Renouons la chaîne régulière avec les temps passés. La poésie est la géométrie par excellence. Depuis Racine, la poésie n'a pas progressé d'un millimètre. Elle a reculé. Grâce à qui ? Aux grandes têtes molles de notre époque, grâce aux femmelettes, Chateaubriand, le mohican mélancolique, Sénancour, l'homme en jupon, Jean-Jacques Rousseau, le socialiste grincheur, Anne Radcliffe, le spectre toqué, Edgar Poe, le mamelouk des rêves d'alcool, Mathurine, le compère des ténèbres, Georges Sand, l'hermaphrodite circoncis, Théophile Gautier, l'incomparable épicier, le comte, le captif du diable, Goethe, le suicidé pour pleurer, Sainte-Beuve, le suicidé pour rire, Lamartine, la cigogne larmoyante, Lermontov, le tigre qui rugit, Victor Hugo, le funèbre échalas vert, Mickiewicz, l'imitateur de Satan, Musset, le gandin sans chemise intellectuelle, et Byron, l'hippopotame des jungles infernales.
J'ai été frappé, je voudrais quand même le signaler au passage, justement par le catalogue d'écrivains, les grandes têtes molles, que cite Lautréamont, plus exactement, pardon, pas Lautréamont, Isidore Ducasse, et où il semble qu'il y ait entre lui et la lecture de son temps un décalage. Si on fait une enquête un peu en face sur ce dont parlent les gens strictement contemporains, on a l'impression qu'Isidore Ducasse a encore une bibliothèque pour l'époque de provincial, c'est-à-dire qu'il est en retard de lecture sur ce moment-là, c'est-à-dire ce moment où c'est déjà Vallès, enfin où c'est déjà d'autres gens.
Là, je ne partagerai pas tout à fait cet avis, dans la mesure, si vous voulez, où ce que Lautréamont Ducasse prend à partie, parce que là, en fait, ça se passe juste entre les chants de Maldoror et les poésies, n'est-ce pas? C'est à ce moment-là que l'efficacité de ce travail se noue. Il me semble que ce qui se passe là, ça n'est pas tellement une lecture de ce qui est programmé à son époque. Il me semble que ça n'est pas du tout une bibliothèque de provincial, mais que ce serait plutôt, si vous voulez, je dirais, une bibliothèque d'hommes cultivés.
N'est-ce pas? Oui, c'est ça.
C'est-à-dire une bibliothèque qui même à l'intérieur de ce qui peut se produire dans son époque et de ce qui arrive en surface dans son époque, va toucher non pas le tissu de surface, mais va toucher ce qui génère ce tissu. C'est là son efficacité de critique de la bibliothèque du XIXe siècle, n'est-ce pas? Parce que il aurait très bien pu prendre des auteurs plus contemporains. Cela dit, prenant des auteurs contemporains, il aurait certainement touché moins justement l'idéologie que véhiculait son époque qu'en prenant les auteurs qui avaient produit ce moment de la contemporanéité, ce moment de l'actualité, parce que je crois qu'il faut bien distinguer, surtout lorsqu'on parle de Ducasse, il faut bien distinguer les temporalités littéraires, le problème de l'actualité et le problème de l'effet culturel. L'effet culturel n'est pas forcément un effet d'actualité. On voit chaque jour, je veux dire, un peu partout, des romans qui tirent un très très grand nombre d'exemplaires, et dont quelques années après, il n'est plus question. Donc je pense que, si vous voulez, Ducasse arrive là vraiment à un moment historique donné, et que le tissu culturel qu'il traite, c'est le tissu de ce moment historique. Ça n'est pas forcément un tissu d'actualité, mais c'est la culture qui, à ce moment-là, subit une crise. Je crois qu'on peut dire que Ducasse est un auteur de crise.
Je constate avec amertume qu'il ne reste plus que quelques gouttes de sang dans les artères de nos époques phtisiques. Depuis les pleurnicheries odieuses et spéciales, breveté sans garantie d'un point de repère, des Jean-Jacques Rousseau, des Chateaubriand et des nourrices en pantalon au poupon Obermann, à travers les autres poètes qui se sont vautrés dans le limon impur, jusqu'au songe de Jean-Paul, le suicide de Dolores de Ventimiglia, le corbeau d'Alan, la comédie infernale du Polonais, les yeux sanguinaires de Zorilla et l'immortel cancer. Une charogne que peignait autrefois avec amour l'amant morbide de la Vénus hottentote, les douleurs invraisemblables que ce siècle s'est créé à lui-même dans leur voulu monotone et dégoûtant l'ont rendu poitrinaire. Larves absorbantes dans leurs engourdissements insupportables. Allez, la musique. Oui, bonnes gens, c'est moi qui vous ordonne de brûler, sur une pelle rougie au feu, avec un peu de sucre jaune, le canard du doute aux lèvres de vermouth qui, répandant dans une lutte mélancolique entre le bien et le mal des larmes qui ne viennent pas du cœur sans machine pneumatique, fait partout le vide universel. C'est ce que vous avez de mieux à faire.
Vous avez dit que Ducasse, l'autre amant, a une bibliothèque de provinciale, et de ce point de vue, vous savez que le problème, c'est de savoir en effet d'où il vient. D'où vient l'autre amant, d'où vient ce Ducasse? Je pense que il vient d'un inconscient qui, lui, alors a une avance considérable sur la culture sur laquelle il va se greffer. Finalement, une littérature, c'est le choc entre un inconscient et la culture dans laquelle il est plongé, c'est-à-dire les limites historiques, sociales, économiques et du savoir. Si on prend l'arrivée, les fractions de cet étranger, de ce retour du refoulé qu'est Ducasse, puisqu'il fait partie d'une famille qui est allée s'installer dans une autre langue et dans un autre contexte culturel et qui vient se reproduire, dégorger quelque chose qui a été emporté et greffé sur un autre terrain, il vient en position d'extériorité. Ça, je crois que c'est très important. À ce sujet, je voudrais faire simplement la remarque suivante. C'est que je pense que s'il y a eu l'interprétation, disons, emphatique, mythique et métaphysique de l'autre amant, due pour la plus grande part au surréaliste, si ensuite on a commencé à s'apercevoir qu'il fallait surtout étudier le procès d'écriture de l'autre amant Ducasse, c'est-à-dire finalement son traitement de l'écriture au plus près de l'écriture en train de se faire et la contradiction qui s'en dégage. Je crois qu'aujourd'hui, quelque chose d'important serait à voir, probablement d'un côté encore plus freudien, car Pleinet a tout à fait raison de dire que c'est un auteur de crise, mais c'est un auteur de crise parce que, justement, Freud va introduire une crise monumentale dans toutes les procédures du langage, de l'énonciation et de la conscience. Donc je crois qu'une interprétation aujourd'hui devrait se demander à quelle recherche sur l'inconscient fondamental se livre ce personnage qui écrit ça. Et je dirais que c'est, pour moi, maintenant, étant donné une fonction sur laquelle je pense qu'on n'a pas encore assez insisté, qui est la fonction de l'humour de cette écriture. Et je crois qu'il faudrait y insister maintenant pour être tout à fait à l'aise avec l'autre amant Ducasse et ne plus avoir, par rapport à lui, aucune révérence ni aucune dévotion, et justement ne pas en faire une nouvelle tête molle. Cette fonction de l'humour, qui est une fonction d'introjection, justement, de recherche d'introjection de la fonction parentale, est liée de toute évidence à une enquête sur la paternité. Or, nous savons encore très peu de choses sur le père de Ducasse, mais nous savons que François Ducasse était quelqu'un d'assez cultivé pour son temps.
Il avait été non seulement instituteur dans son départ du sud-ouest vers les Amériques, mais il avait aussi été, ce qui était à l'époque très important, aujourd'hui ça fait sourire, mais très important, il était secrétaire de mairie.
C'est cela. Alors, on sait, mais on ne sait pas avec beaucoup de détails, qu'il était positiviste et qu'il a fait plusieurs conférences sur Auguste Comte, ce qui, à mon avis, est assez important. Parce que on pourrait dire, si vous voulez, que l'emphatisation, la mythologisation de l'autre amant signerait peut-être, chez ceux qui l'ont produite, une sorte de dénégation de la fonction paternelle, si on voulait en faire une interprétation freudienne. Il lisait donc, il faisait des conférences sur Auguste Comte. Et ce que j'ai été amené à remarquer, c'est que le premier prénom de Comte, c'est Isidore, c'est-à-dire Isidore Auguste Comte. Vous trouvez là une sorte de matrice symbolique du nom même de l'autre amant, puisqu'il va prendre comme pseudonyme Comte de l'autre amant, Auguste Comte, et que son propre prénom, Ducasse, et Ducasse est un nom très lourd de signification, c'est Isidore. Il y a là toute une scène entre le père et le fils qui donne probablement lieu à un investissement.
Et il y a aussi quand même une avancée vers le nom.
Voilà.
Puisqu'il y a l'anonymat, la pseudonymie, et le nom, et dans des conditions bien précises.
Voilà. Alors, il avance en quelque sorte vers son nom. C'est quelqu'un qui avance vers son nom, et je crois que là, il y a quelque chose qui est d'ailleurs soulevé très tôt par Pleinet, pour la première fois, qui est justement que l'autre amant se fait fils de ses œuvres, mais ce qu'il retrouve paradoxalement à la fin de cette longue analyse, pourrait-on dire, c'est la possibilité de signer de son nom.
hein, qui lui était profondément interdit. Alors vous voyez que là se dessine une scène tout à fait étrange, puisque elle est sans exemple, sans précédent, sans comparaison avec aucune autre scène d'écriture. Pas de nom, un pseudonyme et enfin son propre nom. C'est exactement à l'envers, si vous voulez, du cheminement normal d'une acquisition symbolique.
Oui, mais alors continuons si vous voulez, parce qu'il me semble que ce que vous dites, Philippe Soler, est très intéressant, dans la mesure même où il semble que l'avancée de Ducasse vers son nom, Isidore Ducasse, s'accompagne aussi de la disparition, tout aussi symbolique, du nom de son compagnon d'enfance, qui est Dazette, puisqu'au temps de l'anonymat, ce sera Dazette, puis D, trois points. Au temps de Comte de Lautréamont, ce sera toute l'imagerie métaphorique qui va remplacer ce nom, et il semble que lorsque ce nom soit complètement éliminé, Isidore Ducasse récupère le sien, Marcelin Plenet.
Oui, je pense que c'est... Si vous voulez, je pense que là, on a des points d'appui biographique qui sont très importants, mais qu'il faut se garder de prendre comme des vérités premières. Je pense que ce sont des points qui sont à traiter, justement, dans la perspective qu'indiquait Soler, ce qui serait une perspective analytique. Mmh. C'est-à-dire qui sont à prendre davantage comme des symptômes d'un sens que véhiculerait le texte, que comme des effets qui passeraient directement du réel dans la littérature sans subir aucun changement, n'est-ce pas? Le fait que Dazette soit nommé dans un champ, puis qu'il disparaisse dans le premier champ, n'est-ce pas? Puis qu'il disparaisse, qu'il devienne une initiale, et puis qu'il disparaisse. Je pense que c'est important, mais que ça n'est pas du réel porté tel quel, si je puis dire, dans la littérature, n'est-ce pas? À partir du moment où l'écrivain utilise le réel, évidemment, il en fait tout autre chose.